on va avoir un manager donc, qui va avoir besoin de maîtriser l'équation de la motivation intrinsèque. Donner du sens au travail des gens, valoriser l'impact, c'est-à-dire leur montrer le résultat de ce qu'ils produisent quasiment quotidiennement, et favoriser l'autonomie.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafon, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Salut Cyril, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Management. On va parler du manager du 21e siècle, donc ce que tu appelles le glandeur magnifique. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Déjà bonjour, je m'appelle donc Cyril De Souza Cardozo, je suis aujourd'hui à la tête d'un mini-groupe qui comporte deux sociétés, Odalom qui est un cabinet de conseil en transformation des organisations, notamment en matière de transformation managériale où on donne des formations et on accompagne des organisations dans leur transformation managériale, et une filiale de cette société qui est lié, et ça va être lié un peu aux thématiques dont on va parler, qui développe des intelligences conversationnelles, notamment donc des chatbots, dans l'univers des ressources humaines, qui visent notamment à faire gagner du temps au sein des organisations en matière de réponse aux collaborateurs de premier niveau sur des thématiques internes.
D'accord. Et quel est ton parcours ? Comment tu es arrivé à créer ce logiciel ?
Alors moi j'ai un parcours d'ingénieur à la base, j'ai fait l'ENSAI notamment à Rennes, puis après j'ai eu un parcours en gros de chef de projet informatique, système d'information, qui m'a conduit très tôt à réfléchir à ce qu'était la conduite de projet, le management de projet, et notamment à devenir un peu expert dans ce qu'on appelle les méthodes agiles dans l'univers informatique. D'accord. Et de ce parcours-là qui m'a conduit du ministère de l'écologie à la Banque de France, en passant par l'INSEE, et même une mission pour l'Union européenne, eh bien, j'ai ensuite basculé dans le secteur privé où je suis devenu directeur associé du cabinet Odalom que j'allais quelques années plus tard finalement racheter.
D'accord. Et dans ton parcours, tu t'es pas mal intéressé à l'histoire et à la science sur le management. Est-ce que tu pourrais nous donner les origines du management ?
Alors le management, je pense qu'il est presque vieux comme le monde, c'est-à-dire que en gros il commence à partir du moment où un groupe humain a cherché finalement à travailler finalement ensemble. Donc on pourrait voir le management de cette manière-là, c'est-à-dire que sur la pyramide de Khéops, on peut considérer que les contremaîtres qui fouettaient les esclaves étaient des premiers managers. Bon, la réalité cependant, c'est que le vrai management tel qu'on l'entend dans le sens moderne en vrai émerge avec la société industrielle et notamment l'invention du Fordisme, ce qui va d'ailleurs poser problème puisque il y a différents types de management, et je pense que d'ailleurs ce vers quoi on doit aller est fondamentalement en rupture avec ce management qui est né dans le Fordisme, l'organisation scientifique du travail. Donc le management, ça date et ça a à peu près normalement 200 ans en termes de pratique humaine.
D'accord. Et donc qui dit management dit levier de motivation pour les collaborateurs. Quelles sont les conclusions scientifiques que tu connais sur les différents modes de motivation et les différents leviers ?
Alors sur la motivation, ce qui est intéressant, c'est que en effet, ça a été le point d'ailleurs de départ de Manager Sapiens, que j'ai coécrit avec d'ailleurs l'un de mes associés, Jean-Christophe Messina. Le point de départ de cet ouvrage, lorsque des clients nous ont demandé d'abord de faire une formation en management, on n'était pas très chaud au début. Puis quand finalement on a accepté l'idée, moi en tant qu'ingénieur, je me suis dit ok, si on veut créer quelque chose de nouveau, en tout cas qui fonctionne, il va falloir repartir un peu d'une sorte de vérité première. Donc, il fallait faire table rase un peu de tout ce qui existait en matière de littérature, non pas pour dire que tout ce qui était raconté était des conneries, mais plutôt parce qu'il fallait retrouver des repères clairs. Et en faisant ça, donc j'ai fait table rase un peu de la littérature et je suis revenu un peu au principe de base de dire ok, c'est quoi un groupe humain ? C'est un groupe d'homo sapiens. Et la question a donc été de se dire ok, qu'est-ce que la science et la biologie nous disent ? sur notamment ce que moi j'appelle les algorithmes biochimiques qui nous composent et qui définissent nos modes d'interaction pour essayer de comprendre comment on interagit. Et en effet, la science nous parle notamment de la motivation avec pas mal de choses notamment qui viennent contredire un peu des croyances folkloriques du management. Typiquement, l'une d'entre elles, l'une des plus fortes, c'est que les primes, donner des primes à des gens, c'est contre-productif en matière de créativité, de performance au travail. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les expériences qui ont pu travailler, démontrer des choses sur le sujet. Il y a notamment la bougie de Karl Dunker, où il y a eu énormément d'expériences autour. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. C'est les deux motivations schématiquement que moi j'ai retenues dans notre modèle. Et la motivation extrinsèque, finalement, c'est une motivation qui s'est développée chez l'Homo sapiens, parce qu'à un moment donné, il fallait courir après une proie ou essayer de fuir un prédateur qui nous courait après. Cette motivation-là, elle s'est développée pour faire en sorte que notre énergie se concentre dans notre corps pour aller très vite. Et pour faire ça, il faut à un moment donné couper le fonctionnement du cerveau, parce que le cerveau, c'est 25% de consommation d'énergie. Et donc la motivation extrinsèque fonctionne de telle manière qu'elle est là pour nous concentrer et donc, paradoxalement, pour limiter finalement le fonctionnement cognitif. Le problème, c'est qu'avec l'automatisation croissante, l'informatique, l'intelligence artificielle, les tâches purement automatiques n'existent quasiment plus dans le monde du travail aujourd'hui. Toute tâche nécessite un minimum de fonctionnement cognitif. Et là, si on veut produire de la motivation ici, alors il va falloir développer ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et là, pareil, la science est venue travailler sur ce sujet-là, avec notamment le sens, l'impact et l'autonomie, qui sont les trois grands leviers de la motivation intrinsèque.
D'accord. Et du coup, dans l'histoire des entreprises et du management, en fait, ça s'est fait à l'encontre un peu de la nature humaine avec l'automatisation des tâches.
Alors, le fait, c'est que, au fond, on peut dire non, qu'il y a une sorte d'histoire naturelle, et que tout a été fait presque de manière biologique, sauf qu'il y a eu un changement en cours de temps qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que, quand finalement Henry Ford crée l'organisation scientifique du travail, que le management se décline sous cette manière-là, qu'on a des personnes qui font des tâches automatiques, eh bien, on est bien dans un fonctionnement biologique où les gens, on leur demande principalement de faire des tâches automatiques, serrer des boulons sur une chaîne de production, etc. Bon, il n'y a pas besoin de fonctionnement cognitif, il faut répéter des cadences, etc. Dans ce cadre-là, finalement, la théorie biologique dit bien que oui, si vous donnez une prime à des gens, alors les gens vont être plus productifs. Ce modèle-là fonctionnait. Alors, c'est valable uniquement d'ailleurs sur des primes qui sont données quasiment de manière mensuelle, puisque l'impact d'une prime sur la motivation d'un individu, même en matière de motivation extrinsèque, c'est 3 semaines. Donc, les primes annuelles n'ont aucun sens d'un point de vue managérial. C'est vraiment folklorique. Sauf que donc, le travail qui était organisé de cette manière-là, donc on a créé un management qui était organisé autour de cette motivation extrinsèque. Sauf qu'au fur et à mesure que le 20e siècle s'est déroulé, la machine est devenue de plus en plus présente, l'informatique est apparue, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Et ça, c'est venu prendre le travail automatique des gens. Parce que tout ce qui était automatisable a été automatisé. Et donc, il y a une sorte de changement dans les pratiques de travail. Et donc, on est arrivé dans un environnement où on ne cherchait plus à produire finalement un travail mécanique, mais un travail cognitif. Sauf que les pratiques managériales, elles ne s'étaient pas adaptées entre-temps. Elles sont en train encore de manager, en gros, des homo sapiens, où maintenant, on ne leur demande plus des tâches automatiques, mais des tâches cognitives. Sauf qu'elles ne s'étant pas adaptées, elles ne comprennent plus. Et d'où le fait qu'à un moment donné, on a encore des systèmes de primes dans nos organisations ou des systèmes de primes annuelles, alors que je distingue bien du salaire. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Le salaire, c'est important. La notion de reconnaissance est importante. Mais les primes, en gros, ce qu'on dit très clairement, ce que la science dit, c'est que c'est purement du folklore. Vous avez plus de chances de produire de la motivation et de la performance dans votre organisation, et même à produire moins de dégâts en faisant une danse de la pluie. Voilà, c'est bien ce que dit finalement la science.
D'accord. Et donc sur le manager du 21e siècle, quelles sont pour toi les caractéristiques de ce manager ?
Alors il y a plusieurs paramètres, parce que c'est vrai que là pareil, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui se sont intéressées et d'études qui se sont intéressées sur le sujet. Il y a des choses aussi qui ont un peu impacté. Alors, la crise du Covid est venue accélérer certaines mutations, changements. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir un manager donc, qui va avoir besoin de maîtriser l'équation de la motivation intrinsèque, donner du sens au travail des gens, valoriser l'impact, c'est-à-dire leur montrer le résultat de ce qu'ils produisent quasiment quotidiennement, et favoriser l'autonomie. D'accord. Donc ça va être quelque chose d'une dimension importante chez le manager du 21e siècle. Donc il y a ce besoin qui s'empare de cette équation en se disant, ok, je suis un manager qui va donner du sens au travail des collaborateurs, valoriser leur impact, leur donner de l'autonomie. Et pour ça notamment, l'une des clés principales, ça va être de passer finalement du manager un peu donneur d'ordre au manager finalement coach qui est là pour interroger les collaborateurs, les aider finalement à trouver par eux-mêmes des réponses aux questions qu'ils se posent, parce qu'il n'y a rien de pire pour l'autonomie et donc la motivation intrinsèque que le micromanagement, qui consiste à dire aux gens quoi faire et comment le faire. Ce qu'il faut, c'est aider les gens à développer leur zone d'autonomie, parce que non seulement c'est comme ça qu'ils vont développer leur motivation intrinsèque, mais aussi du coup leurs compétences, du coup leurs performances, et du coup favoriser du coup l'entreprise. Et donc le manager va être beaucoup plus dans une sorte d'art de l'interrogation, qui est là pour non pas donner le poisson aux gens, mais leur apprendre à pêcher. Parce que quand j'interroge quelqu'un pour qu'il trouve par lui-même des réponses ou des ressources face à une problématique, s'il le trouve par lui-même, il va se créer au niveau de son cerveau des chemins cognitifs qu'il sera capable demain de mobiliser sur d'autres thématiques. Et c'est comme ça que je développe l'autonomie de l'individu. Donc le manager coach, je pense, reflète bien l'idée un peu principale de ce qu'on pourrait attendre d'un manager au 21e siècle, ce qui est très différent du manager expert et du manager donneur d'ordre.
Ouais. Donc tout l'enjeu, c'est de développer la motivation intrinsèque des collaborateurs à travers leur autonomie et les trois leviers dont tu as cité, donner du sens et plus d'impact.
Tout à fait.
Ok. Et tu parles de glandeur magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le glandeur magnifique ?
Alors, ce que je dis souvent là, dans les conférences, et j'en ai beaucoup, c'est vrai que cette formation, elle a été... Ce livre, Le Manager Sapiens, c'était avant une formation.
D'accord.
Et c'est ensuite parce qu'elle a rencontré du succès, cette formation, qu'on nous a demandé d'en faire un livre. Et cette formation, elle a rencontré du succès parce qu'à un moment donné, en effet, on avait un chapitre sur ce qu'on appelait le glandeur magnifique. Où des personnes, des années après avoir participé à notre formation, nous écrivaient des fois pour nous expliquer que ce concept avait un peu changé leur vie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a une problématique sur notre rapport au temps dans nos organisations. Le principe du glandeur magnifique, c'est finalement de dire que dans notre époque, il y a un manager qui est un vrai cauchemar, qui est en train de détruire nos organisations, c'est le manager laborieux. C'est le manager qui arrive tôt, qui part tard, qui est toujours débordé, qui a toujours plein de réunions, on voit plein d'emails, surtout tard le soir ou le week-end pour montrer que lui travaille. Il adore exhiber sa charge, c'est un exhibitionniste de la charge. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il y a finalement un héros moderne qui est le glandeur magnifique. Ce manager-là, en fait, il prend les choses à l'envers, il est toujours connecté, c'est pas le glandeur. Le glandeur magnifique, c'est celui qui est connecté finalement aux équations de la motivation, de la performance collective. L'idée pour lui, c'est vraiment de produire un travail à haute valeur ajoutée. Par contre, il a entendu cette histoire quand il était enfant de la loi de Pareto qui lui disait que 20% de son travail allait produire 80% des effets et 80% du travail, 20%. Et lui, ça l'angoisse de faire un travail à faible valeur ajoutée. Et donc, parce que l'état naturel des choses, c'est de rien faire. Ça, on l'a oublié un peu dans la frénésie de notre époque. Et donc, son objectif, c'est de faire en sorte d'économiser du temps partout où il le peut. Il place le temps comme la ressource prioritaire. S'interroger à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, est-ce qu'il faut vraiment le faire ? Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire ? Et s'il faut le faire, est-ce que je ne dois pas déléguer ? D'accord ? Le but, c'est de protéger son temps, celui de son équipe, mais aussi celui de son organisation. Il limite le nombre de réunions, il limite le nombre de personnes aux copies, il va chercher à simplifier les outils, à réduire le nombre d'outils en interne, de process, pour faire gagner du temps. Et c'est vrai que pendant longtemps, les gens rigolaient un peu quand on parlait de ça, sauf que ce n'est pas dénué d'aspect scientifique. Il y a un aspect très thermodynamique et biologique. On est des homo sapiens. Donc notre cerveau, qui consomme 25% de notre énergie, en fait, il a un temps limité productif par jour. Et toutes les études qu'on a étudiées, le temps cognitif disponible pour produire une valeur ajoutée, c'est 6 heures maximum. Donc on est même loin des 35 heures. Je n'ai pas dit, moi, qu'il fallait légiférer d'ailleurs sur le temps de travail. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut laisser les gens autonomes. Mais ils découvriront par eux-mêmes qu'en fait, on est plus efficace si on travaille moins.
Ouais.
Et derrière ça, il y a plein d'exemples historiques, notamment l'équipe qui a entouré Steve Jobs, qui en gros avait un slogan, je travaille 90 heures par semaine et j'en suis fier. Quelques années plus tard, une équipe du MIT qui s'est intéressée à ce projet a démontré que si l'équipe qui avait travaillé sur le Macintosh quasiment 7 ans avait réduit par deux son temps de travail, sur 7 ans, réduire par deux son temps de travail, j'imagine tout ce qu'ils auraient pu faire avec leurs amis et leur famille, le Macintosh serait sorti un an plus tôt.
D'accord.
Parce que travailler au-delà du rythme soutenable, ce qu'on appelle en agilité, eh bien on ne produit pas de la valeur nulle, on peut produire de la valeur négative. Donc la question, c'est comment je redensifie les 6 heures utiles de travail cognitif.
Ça devient contre-productif, en fait.
Exactement.
D'accord. Et quels sont les pièges à éviter ? Est-ce qu'il y a des risques ou des freins que tu vois dans ce mode de management ?
Alors, dans celui de le management classique.
Ouais.
Alors, le management classique, clairement, c'est, de toute façon, c'est tomber dans nos réflexes laborieux. De manager les gens par le temps de travail. Je crois qu'il faut manager les gens par des objectifs aujourd'hui, fondamentalement, ouais. Parce que sans ça, alors on va tomber dans du micro-management et on n'est plus justement connecté à des théories récentes sur le management et sur la motivation intrinsèque. Donc le but, c'est de freiner nos réflexes laborieux, de contrôle. Et la crise du Covid a été parfaite pour ça. Ouais. On a des managers qui sont arrivés dans la crise du Covid. D'un coup, ils ne voyaient plus leurs collaborateurs. Donc, ouais. Je les contrôlais quand je les voyais physiquement. Et là, d'un coup, il s'est passé deux choses. Il y a eu les managers qui avaient des liens de confiance. Et d'un coup, si j'ai ce lien de confiance avec mon collaborateur, alors je le laisse en autonomie. Comme il est en autonomie, il est plus motivé d'un point de vue intrinsèque, produit plus. Donc moi, j'ai plus confiance en lui et il se crée une boucle vertueuse. Mmh. Inversement, il y a la boucle négative. Si je commence à être en défiance de mon collaborateur, je vais chercher à le contrôler. Ouais. Lui, il va sentir que je le contrôle, que je le micromanage, et donc il va être moins motivé d'un point de vue intrinsèque. Et donc, il sera moins performant, et donc moi, j'aurai encore moins confiance. Il se crée une boucle négative. Donc, je crois que le premier écueil, c'est ça, c'est de réfréner nos réflexes un peu laborieux, de contrôle du temps de travail, en sachant replacer la confiance au travail, se reconnecter aux objectifs. Et après, c'est aussi, nous, comment j'économise mon temps, comment je reviens sur ce réflexe qu'on nous a donné à l'école. Pour réussir, il faut transpirer, il faut travailler beaucoup, la tête dans le guidon. Comment je réfléchis ça? Et comment, je pense et je repense la valeur ajoutée. Comment je me retrouve finalement face à moi et que j'accepte finalement de glander, juste se poser et rien faire. Voilà.
Est-ce que c'est un côté très rassurant aussi de se dire je fais mes 8-9 heures par jour, j'ai bien bossé, j'ai fini ma journée, quoi.
Ah, exactement. Alors, les gens, ils aiment bien ça et après, ils partent sur d'autres choses. En plus, sur 8-9 heures, je ne sais pas toujours ce qu'ils ont fait. Et des fois, ce n'est pas que 8-9 heures. Des fois, c'est beaucoup plus.
Ouais.
Et les gens aiment bien parce qu'ils aiment bien parce que ça leur permet de s'oublier. Parce que fondamentalement, la promesse de dire aux gens, vous allez avoir plus de temps pour vous, la problématique, c'est que les gens vont se retrouver face à eux-mêmes.
Ouais.
Et ça, c'est une angoisse, je pense, fondamentale pour certains. Sauf qu'il faut ce chemin-là parce que je pense que c'est vraiment un chemin d'épanouissement et individuel et collectif. Et qu'on comprenne bien ce que je dis, quand moi je parle finalement du glandeur magnifique, je ne le fais pas par humanisme. Ça peut, je dis, moi, le bonheur au travail, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je pense que le bonheur au travail, c'est la conséquence d'un travail bien organisé, qui a du sens, qui produit de l'impact, où les gens sont autonomes. C'est une conséquence, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. Et donc, dans cette approche-là, en tout cas, l'idée... c'est vraiment de se dire que ce chemin-là, ce n'est pas un chemin humaniste, c'est un chemin de performance. Pour être performant au travail, il faut réapprocher l'être humain sous un angle biologique, comprendre qu'il a des limites, notamment cognitives, et que si on veut les exploiter, les utiliser pleinement, eh bien, il faut respecter ces règles-là.
D'accord. Et pour le glandeur magnifique, est-ce que, pour le coup, il y a des pièges à éviter également, peut-être en termes de suivi de la performance ou,
De toute façon, c'est toujours cette thématique de comment je suis ensuite mes objectifs. Alors, le premier écueil, ça serait de quand je donne de l'autonomie, les gens souvent ont cette chose-là. Et c'est vrai que moi, ça me paraît toujours naturel, mais je m'aperçois que ce n'est pas le cas chez les gens. Souvent, après, les gens disent « Ouais, mais si je donne de la liberté aux gens, les gens ensuite, ils peuvent faire n'importe quoi, etc. » Non, parce que le corollaire de l'autonomie, c'est la responsabilité. Et contrôler des objectifs, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le glandeur magnifique n'a rien de quelqu'un ou d'un gentil organisateur ou de quelqu'un qui sera toujours sympathique. Parce qu'à un moment donné, un collaborateur à qui j'ai donné des objectifs, qui n'atteint pas les objectifs, je dois le mettre face à ses réalités. Donc, c'est bien comprendre qu'à un moment donné, on donne de l'autonomie aux individus, mais le corollaire derrière, ça va être de leur donner cette responsabilité. Ils sont responsables de l'atteinte de leurs objectifs et donc des conséquences de ne pas les atteindre. Donc il n'y a rien c'est pas quelque chose l'entreprise libérée ou
le monde.
Non, exactement, ça n'a rien à voir avec ça, bien au contraire, et c'est en même temps la logique. Je crois que c'est retravailler aussi sur nos postures d'adultes dans nos organisations, remettre chacun à sa place, dans sa zone d'autonomie, aussi de responsabilité, mais aussi de compétences, et donc c'est éviter en tout cas cet écueil-là. Et l'autre écueil, ça serait de basculer du glandeur magnifique au glandeur
tout court,
qui par exemple je crois pas que cet écueil-là finalement arrive parce qu'on n'est pas fait fondamentalement pour ça, mais qui consisterait finalement à accepter tout ce qui arrive comme travail et ensuite à le déléguer tout de suite à ses équipes.
Ouais.
Ça, ces gens-là, c'est pas des bons managers, ils sont plus proches d'ailleurs des managers laborieux que du glandeur magnifique. Pourquoi ? Parce que les équipes le sentent à un moment donné quand le manager n'est pas en protection du temps. Et donc le glandeur magnifique, c'est bien ça. Il n'utilise pas, il n'exploite pas le temps des autres. Il protège son temps, le temps de son équipe et le temps de toute l'organisation. Le but, c'est de se dire que le temps de tout le monde est précieux. Et souvent, je ramène ça en formation. Je dis aux gens, dites-vous, imaginons, vous allez un jour vous retrouver sur votre lit de mort, à quelques secondes de partir. Finalement, vous allez penser à quoi? Vous allez vous dire quoi de votre vie? Est-ce que vous allez vous dire, tiens, si j'avais su, j'aurais été plus souvent en réunion, j'aurais établi plus de process, j'aurais été un peu plus sur Facebook, sur Instagram. Non, je ne crois pas que vous vous direz ça. Ouais. Il y a d'autres choses essentielles qui sont importantes. Et donc, ramener les choses à la notion de temps, c'est se rapercevoir que si je demande aux gens 10 euros, ils gueulent. Mais si je les prends 5 heures dans une réunion qui ne sert à rien, bon, ils disent ouais. OK. Ouais. Ben, pourtant, la seule chose qu'on a, c'est du temps.
Ouais. Et la philosophie, ce n'est pas de gagner du temps pour en faire plus en entreprise, c'est aussi de pouvoir rééquilibrer la vie pro, la vie perso, et de pouvoir aménager ses horaires pour garder cet équilibre.
Ben, en fait, c'est même pire que ça, c'est que, pareil, sur la notion d'équilibre, c'est qu'en fait, c'est l'essentiel de la performance. Moi, j'ai des managers, quand on les accompagne, ben, je sais pas, les premiers entretiens annuels qu'ils doivent faire, les notations, j'ai des managers qui, d'un coup, qui me disent « Ah ouais, mais cette personne... je suis obligé de lui donner une bonne notation, elle arrive tôt, elle part tard, elle n'a pas de vie personnelle, le week-end même elle travaille. Ben, il est urgent dans nos organisations de ne pas récompenser ces individus, parce que ce sont des individus qui ne sont pas équilibrés, qui ne tiendront pas la distance, qui n'apportent pas justement cette valeur ajoutée nécessaire. Donc, c'est bien se dire qu'en effet, le but c'est de gagner du temps pour être performant sur le temps cognitif que j'ai, et pouvoir avoir le temps, ben derrière bien sûr, de m'épanouir, et dans ma vie familiale, et dans ma vie et mon travail aussi personnel. Donc, on a besoin de ça. Un individu, c'est un être équilibré qui doit avoir ces temps-là. Et c'est de cette manière-là qu'on aura des gens performants qui seront non seulement performants dans leur métier, mais aussi en capacité d'être beaucoup plus en anticipation, qui vont avoir plus de temps d'échanger avec les collaborateurs, avec les collègues, d'être plus stratégique, d'être plus créatif, d'être plus innovant. C'est ces qualités-là qu'on cherche dans tous les métiers aujourd'hui. Eh bien, c'est par ce travail sur le temps qu'on va réussir à rendre performants les Homo sapiens.
Ok, super intéressant. Et dans tes entreprises, comment tu appliques ça au quotidien? Et est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes pardon, que tu mets en place?
Alors là-dessus, moi je suis le premier à le dire, c'est important parce que c'est comme le travail en philosophie. Et en effet, je suis confronté à une chose, c'est que moi-même, du coup, je suis manager. Donc tout ce que je dis, du coup, je le mets en application. Le premier élément qui est hyper important dans tout ça, c'est avoir le doute. Moi, je doute. Ouais. Je doute toujours. Ouais. Parce que je parais plein de certitudes quand je parle de mon livre, de mon management. Et en même temps, bah voilà, je me permets de douter sur chaque chose. C'est l'approche scientifique. Je crois qu'un scientifique, il doit toujours mettre en place des hypothèses et douter. En tout cas, à date, dans mon organisation, moi, je suis très clair. On a une zone d'autonomie importante chez chacun des individus. C'est l'avantage aussi, parce qu'on travaille, nous, dans l'univers du développement numérique, digital. Donc, on a des méthodologies de développement telles que les méthodes agiles qui cadrent très bien ces aspects-là. On fonctionne par des roadmaps qui fonctionnent de 2 à 3 semaines. Donc, nos développeurs, on a des réunions de planning qui nous permettent de définir la charge de travail ou le plan de route sur lequel ils s'engagent sur les 2 à 3 prochaines semaines. Donc, 2 ou 3 semaines plus tard. Oui, exactement. Ouais. C'est les sprints. Donc, du coup, ça nous permet de venir contrôler ensuite le travail, l'atteinte ou pas. Donc, on a un rythme de travail et une organisation qui le permet. Derrière, notamment sur les aspects de télétravail, chez nous, on est très libre. Tout le monde peut venir au bureau ou pas, est libre de travailler quand il le souhaite. Ce qui est important, c'est les objectifs qu'on se donne. Par contre, il y a des choses qui sont importantes. C'est que, par exemple, on est des homo sapiens. Et je ne crois pas qu'on peut être des homo sapiens, travailler et être formé une équipe si on n'a pas des rituels en face à face. La nécessité de se voir régulièrement en face à face. Et moi, typiquement, c'est instauré comme ça. Je demande à mes collaborateurs, le mardi matin à 9h30, que tout le monde soit au bureau pour une réunion d'équipe où on fait un point ensemble sur tout ce qui s'est passé la semaine passée et ce qui va se passer cette semaine. Donc typiquement, c'est le genre de choses qui me permet moi aujourd'hui de structurer. Alors maintenant, on est une dizaine de collaborateurs aujourd'hui et manager une équipe de 3-4 personnes, une dizaine aujourd'hui. Et demain, manager 20, 40, 50 personnes, c'est pas la même chose comme manager demain 1000, 2000, 10 000 personnes dans certaines organisations. Chaque organisation doit inventer son organisation. Je crois que c'est aussi le secret et que nous a appris notamment toutes les réflexions dans le monde finalement de l'innovation managériale, c'est de se dire que la clé d'une bonne organisation pour une équipe, c'est l'auto-organisation. C'est l'invention de son organisation. Il faut arrêter d'écouter trop les consultants qui vous donnent des conseils sur la manière de vous organiser. La question, c'est quelle organisation se donne votre équipe à l'instant où elle est, en sachant qu'une équipe, elle peut rester les mêmes personnes. Un an après, ça boit de les mêmes personnes, les gens évoluent. Et donc, il n'y a rien de plus bizarre de dire qu'une équipe qui évolue individuellement, aurait besoin de garder exactement la même structuration, la même organisation. Non, une organisation qui évolue peut adapter son organisation. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des rétrospectives, en agilité. Se réunir régulièrement pour ne pas parler du fond, mais de la forme, et réinventer son organisation.
D'accord. Et j'ai une petite anecdote de Mohamed qui m'a dit qu'après le déjeuner, des fois, tu leur disais d'aller se balader ou d'aller prendre l'air.
Exactement. Alors
ça j'insiste. C'est pas très productif après le déjeuner.
Tout à fait, parce que je parlais des 6 heures. C'est un point important. Et même, je les pousse à leur dire fais de la sieste, allez faire un travail plus léger. Pourquoi ? Parce que les études, notamment, c'est les derniers prix Nobel, parmi les derniers prix Nobel en médecine qui ont eu un prix Nobel sur les rythmes circadiens, nous ont fait notamment découvrir que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Donc les 6 heures cognitives dont je vous parle, ils ne sont pas répartis de la même manière sur la journée. En gros, en moyenne, c'est vrai qu'il y a une part d'adolescents et quelques cas particuliers, mais les adultes en entreprise de manière générale, voilà, en gros, le gros de l'effectif va fonctionner par ce qu'on appelle un pic, un creux, puis un rebond. En gros, le matin, vers 8h, 9h, vous allez arriver à peu près à votre pic cognitif, vous êtes prêt un peu à travailler. Et ce pic-là, vous allez être vraiment performant jusqu'à 12h30, 13h à peu près. Puis après le déjeuner, vous savez, c'est le temps où vous arrivez au bureau, en réunion, vous avez du mal à vous concentrer, etc.
Je vois bien.
En fait, la réalité, c'est que cognitivement, vous ne servez à rien. En fait, vous n'êtes pas bon à ce moment-là parce que votre cerveau, il est plus efficace là. Et donc, le problème, c'est justement de vouloir mettre les tâches compliquées là, ou les choses complexes, ou absolument vouloir travailler à ce moment-là. Je pense que ce n'est pas du travail. Donc, il vaut mieux plutôt laisser passer, aller s'aérer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, je sais bien, les entreprises ont besoin que les gens travaillent dans ce temps-là, mais il faut augmenter le nombre de pauses, faire des pauses plutôt en interaction avec des personnes. Il faut se lever plus régulièrement. Donc, voilà. Donc, il faut changer ça. Et en fait, en fin d'après-midi, on a ce qu'on appelle un rebond. Et à ce moment-là, on va redevenir actif cognitivement. Et sans rentrer dans le détail, en gros, on a deux réseaux neuronaux. Le mode par défaut, le contrôle exécutif. Un qui permet de générer des idées, l'association d'idées. Et l'autre qui permet de prendre des décisions, s'appuyant sur vos connaissances, etc. Le matin, ces deux réseaux de neurones sont hyper efficaces. Donc, c'est le matin qu'il faut prendre plutôt les décisions. Le début d'après-midi, vous ne servez à rien, donc allez vous promener. Et fin d'après-midi, faites plutôt les tâches créatives. Pourquoi ? Parce que quand vous repartez un petit peu de l'avant, votre réseau du mode par défaut d'association d'idées se réveille. Sauf que l'autre qui censure le premier, de temps en temps, le contrôle exécutif, lui, repart pas vraiment. Donc, vous êtes plus créatif en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, ayez vos idées là. Par contre, quand vous devez ensuite choisir, attendez le lendemain matin, parce que là, vous serez frais.
Ok, donc le petit conseil de Cyril, c'est aller vous balader vers 14h.
Exactement. faites de la sieste, faites d'autres choses. Vous pouvez vraiment profiter, aller au musée. Il y a plein de choses à faire et qui seraient très utiles d'ailleurs.
Ok. Et quels sont les retours des collaborateurs ? Est-ce que tu as perçu des retours positifs de chacun de tes collaborateurs ?
Écoute, en tout cas, j'ai le sentiment que les collaborateurs qui nous rejoignent déjà gagnent en tout cas en performance, gagnent en autonomie. Ça, c'est un premier élément. Deux, je pense que pour une jeune start-up, on a un turnover plutôt faible, ce qui est plutôt, je pense, en tout cas à notre stade, en tout cas un bon indicateur. Ouais. On a recruté il y a 2 ans, 3 alternants. Et ces 3 alternants, aujourd'hui, on leur a proposé un CDI et ils restent tous. Je pense que ça aussi, c'est un indicateur. Et donc, je pense que oui, on a des collaborateurs qui évoluent bien. Après, c'est comme tout. Ce qui est important, c'est une entreprise, c'est une aventure humaine. Je crois qu'on attend des collaborateurs qu'ils apportent quelque chose dans l'entreprise. Mmh. Et en même temps, il faut que l'entreprise leur apporte à eux aussi. Je crois que c'est important, ça, c'est que les collaborateurs, aucun de nous va rester indéfiniment dans une organisation. On le sait tous, on évolue à tous les niveaux. Et donc la question, c'est comment le passage dans l'entreprise doit aussi être un élément utile pour eux. Et si demain, ça leur permet d'être un support pour aller vers autre chose, c'est aussi quelque chose de gagner. Donc à ce stade-là, en tout cas avec le peu de temps qu'on a, en tout cas, on a des retours très, très positifs, que ce soit en gain d'autonomie, en motivation au travail, en volonté de continuer à travailler, à s'appliquer dans un collectif qui donne envie d'ailleurs de le rejoindre.
Ouais, j'en doute pas. Et dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce que tu as des idées de nouvelles actions à mettre en place, un peu plus farfelues entre guillemets, ou pour aller un tout petit peu plus loin ?
Ouais, alors je sais pas, je réfléchis. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. À un moment donné, j'avais réfléchi à la semaine des 4 jours, mais j'ai un peu plus de doutes en ce moment parce que justement c'est cette notion du temps cognitif disponible. Est-ce que vraiment le concentrer le travail sur 4 jours, ça a plus de sens. J'ai un petit peu plus de doute là-dessus. Mais typiquement, on vient de rejoindre voilà, un espace de coworking à Paris où on vient de prendre nos locaux. Et on était attentif au fait que cet espace-là permette aux collaborateurs d'avoir accès à plus de 3000 espaces à travers la planète. Parce que ça permet à des collaborateurs chez nous qui vivent à Lyon, qui vivent à Rennes alors qu'on est basé à Paris, s'ils veulent aller travailler ailleurs. Je crois que ça, c'est aussi une révolution du monde du travail en ce moment. Donc, c'est pas des choses incroyables, mais c'est des choses qui viennent un peu réinterroger les pratiques. C'est aussi comment réfléchir à l'implication des collaborateurs dans une organisation. On a des choses autour des réflexions sur les stock options, etc. Donc voilà, donc j'ai pas dit qu'il y aurait des grosses expérimentations. Ouais. Parce que je ne veux pas expérimenter pour expérimenter, je veux toujours relier les choses à la performance des choses. Mais c'est comment on continue finalement à faire en sorte que les homo sapiens dans nos organisations soient motivés et aient envie de travailler ensemble au service de la performance.
C'est déjà pas mal. Et pour finir, est-ce que tu aurais une ou plusieurs recommandations de livres pour nos auditeurs ?
Alors oui, alors il y en aurait plusieurs.
Ouais.
Bon, déjà Manager Sapiens, forcément.
Sapiens que je recommande vivement. Ouais.
merci. Donc, il y aurait celui-là. Après, derrière, il y a deux livres que je recommande. De Daniel Pinker.
Ok.
Dan Pink. Sur lesquels j'ai pu m'appuyer d'ailleurs sur une partie de mes compréhensions sur la motivation. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une plongée beaucoup plus précise sur les sciences de la motivation. Et donc, une grande partie de ce que j'ai repris sur cette partie-là, en tout cas, vient de cet auteur-là. Donc, je le recommande ici. Et c'est chez lui que j'ai notamment aussi également lu plus récemment des choses sur les notions du rythme au travail, sur les rythmes circadiens, avec un ouvrage qui s'appelle Le Bon Moment.
D'accord.
Et donc, je pense que c'est en tout cas deux livres qui sont intéressants à lire. Et pour terminer, mais là, il y en a plein à prendre, mais je pense que tout le monde devrait un jour au moins jeter un œil, un regard sur les méthodes agiles. Non pas que ça soit la panacée ou la chose un peu magique à appliquer partout, je ne crois pas. Mais il y a des éléments dans la philosophie agile qui méritent d'être comprises parce qu'elles font vraiment écho à notre monde. L'Agile Manifesto qui a été posé en 2001, finalement, prévoyait toutes les transformations d'innovation managériale qui ont suivi ensuite. Donc ça vaut le coup de plonger dans les méthodes agiles.
Ok, super. Je partagerai tes recommandations. Merci beaucoup en tout cas, c'était super enrichissant. J'étais ravi de t'accueillir sur Génération Management.
C'est moi qui te remercie. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce temps-là avec toi.
À bientôt Cyril.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.